VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 17 juillet 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia et Anne Albertson. Pour commencer les titres, on est le 14 juillet, Anne.
Visite à Bangui d'une délégation de la communauté de Saint-Égidio pour une rencontre avec les autorités centrafricaines sur l'accord de cessez-le-feu de Rome.
Au Cameroun, au moins 12 civils tués dans un double attentat près de la frontière nigériane dans l'extrême nord du pays.
Le représentant spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, avertit que le conflit au Mali s'étend désormais au Burkina Faso et au Niger.
Le président Donald Trump poursuit son séjour à Paris, où il est l'invité d'honneur des festivités du 14 juillet.
Fin de la navette diplomatique du secrétaire d'État américain entre le Qatar et ses voisins du Golfe Persique.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
La communauté catholique de Saint-Égidio a indiqué hier que l'accord de paix en Centrafrique entre des groupes rebelles et les autorités va être complété la semaine prochaine par un comité de suivi impliquant l'Assemblée nationale. Le point avec Solange Yamoulissa.
Une délégation Saint-Égidio s'est rendue à Bangui pour rencontrer les autorités centrafricaines. Mauro Garofalo, membre de cette communauté, a indiqué qu'un 14e groupe rebelle s'est rallié à l'accord de paix qui, selon lui, n'est qu'une feuille de route. Il a annoncé la future mise en place d'un comité de suivi avec l'Assemblée nationale, des représentants du gouvernement et des observateurs onusiens. 13 groupes armés ont paraphé le 19 juin à Rome avec les autorités un accord prévoyant un cessez-le-feu immédiat. Malgré cette annonce, des centaines de personnes ont été tuées dans des combats à Bria, Bangassou et Bambari. Par la suite, des signataires de l'accord se sont détachés, comme la conférence épiscopale qui dit n'avoir pas envoyé celui qui a signé, tout comme un groupe anti-Balaka.
Au Cameroun, le gouvernement a annoncé hier qu'au moins 12 civils ont été tués dans un double attentat dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'extrême nord du Cameroun. Pour sa part, l'ONG Médecins sans frontières parle de 16 civils tués et de 44 blessés dans la localité de Ouaza, ville de transit située entre Maroua et Kousséri, à la frontière du Nigeria. Au total, 14 personnes, dont 2 kamikazes, ont perdu la vie et 35 personnes ont été blessées dans ce double attentat, selon le communiqué du gouvernement camerounais.
Au moins 3 soldats maliens ont été tués et 5 étaient toujours portés disparus hier, 4 jours après une attaque dans le nord du Mali, où l'armée malienne a annoncé la mort d'une dizaine de djihadistes dans des opérations conjointes avec l'armée française. Ces opérations avec la force française Barkhane, menées en début de semaine dans la même région à l'est de Gao, principale ville du nord du Mali, se sont soldées par une douzaine de terroristes mis hors d'état de nuire et un autre qui a été fait prisonnier, a indiqué l'armée malienne dans un communiqué.
Le conflit au Mali s'étend désormais au Burkina Faso et au Niger avec une forte augmentation des attaques de groupes extrémistes dans les régions frontalières ces derniers mois, a averti hier le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas. Trafiquants de drogue, trafiquants d'êtres humains et marchands d'armes passent les frontières, établissant une présence provisoire avant de se déplacer vers de nouvelles zone, a expliqué M. Chambas.
Deux leaders des anciens rebelles démobilisés de Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire, ont été remis en liberté provisoire hier, après 2 jours de détention. Le président du groupe des démobilisés, Amadou Ouattara, et son porte-parole principal, Megbe Diomandé, avaient été inculpés de troubles à l'ordre public et manifestations non autorisées et emprisonnés mardi. Des ex-rebelles démobilisés avaient brièvement bloqué une entrée de Bouaké dimanche, avant d'être dispersés par la police. Ils réclamaient une prime de 18 millions de francs CFA par tête.
Dans le sud du Nigeria, un soldat a été tué et plusieurs blessés hier dans la région pétrolifère par des assaillants non identifiés. Le point avec Diane Nini Nawazwe.
L'attaque contre un poste militaire s'est produite hier dans le sud-ouest de l'état du Delta. Il y a une dizaine de jours, 2 militaires ont été attaqués à Sapel dans la même région. Les opérations de sabotage des infrastructures pétrolières et les enlèvements y sont courants. Un accord entre les rebelles du Maine et le gouvernement a été trouvé et une amnistie décrétée en 2009. En 2016, la région a été le théâtre d'une résurgence des attaques. Les groupes rebelles armés revendiquent un meilleur partage des revenus, une autonomie politique régionale et la dépollution des sites pétroliers. Le sud-est du Nigeria contient des réserves pétrolières estimées à 70 milliards de barils, mais la région reste l'une des plus pauvres du Nigeria.
En Gambie, le président Adama Barrow a désigné hier une commission chargée d'enquêter sur les biens de son prédécesseur Yahya Jammeh, parti en janvier en exil pour la Guinée équatoriale et accusé de détournement de fonds. En mai, le ministre de la Justice, Aboubakar Tambadou, avait annoncé le gel des biens de M. Jammeh, soupçonné par les autorités d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars. Le ministre de la Justice a précisé que la commission avait 3 mois pour mener son enquête et remettre ses conclusions au président Barrow et que toutes ses audiences seraient publiques.
Un ancien candidat de l'opposition à la présidentielle de 2016, destitué en juin de la mairie de la capitale économique du Tchad pour malversation financière, a été arrêté par la police hier à son domicile. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
Au Gabon, un journaliste et un syndicaliste arrêtés et poursuivis pour diffamation envers un magistrat ont écopé jeudi de 45 jours de prison ferme à l'issue du délibéré de leur procès. Le journaliste Juldas Biviga et le syndicaliste Marcel Libama sont aussi condamnés à payer 300 000 francs CFA d'amende, selon leur avocat. D'après la Confédération de syndicats d'enseignants, la CONICESICED, interdite par le gouvernement depuis fin mars et à laquelle appartient M. Libama, ce dernier et M. Biviga auraient été passés à tabac à la prison jeudi matin avant d'être conduits au tribunal. Ils ont tous deux été conduits à l'hôpital après le délibéré, selon plusieurs sources concordantes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump à Paris, le président américain poursuit sa visite entamée jeudi dans la capitale française où il est l'invité d'honneur des festivités du 14 juillet. Timothée Donangmaï a joint l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Paris, Luis Ramirez.
Des troupes françaises, aussi des Américains, vont marcher sur les Champs-Élysées. Monsieur Trump participera aux célébrations de la fête de la Bastille, qui sont particulièrement importantes pour l'Amérique cette année, parce qu'ils marquent le centenaire de l'entrée américaine dans la Première Guerre mondiale. Le président Trump a dit que d'abord, il n'avait aucune intention de venir à Paris pour ce jour, mais quand le président Macron l'a invité, il a dit que c'est une date très importante pour l'histoire américaine aussi. Monsieur Trump a décidé de voyager à Paris pour 2 jours.
Les Français ont été froissés par des propos du président Trump qu'ils ont jugés peu flatteurs au sujet de leur pays. Quel accueil ont-ils réservé à M. Trump?
La France a déployé le type d'accueil qu'il réserve pour ses visiteurs les plus distingués. Avec une fanfare complète, le président américain a visité le tombeau de Napoléon aux Invalides. Il y avait la garde républicaine représentant de toutes les forces armées françaises. C'est vraiment formidable la réception qu'il a reçue.
L'accord de Paris sur le climat dont se sont retirés les États-Unis sous Donald Trump a été abordé hier lors de la conférence de presse donnée par les présidents américains et français. D'abord, on écoute Emmanuel Macron.
Enfin, sur le climat, nous connaissons nos désaccords. Nous les avons exprimés et partagés à plusieurs reprises. Et je pense que c'est important de pouvoir continuer à voir comment avancer sur ce sujet. Je respecte la décision du président Trump. Il va ainsi mener les réflexions et le travail qui convient et qui correspond à ses engagements de campagne. Pour ma part, comme je l'ai dit, je reste attaché à l'accord de Paris et à la volonté qui est la mienne de poursuivre le cadre de cet accord et de pouvoir justement procéder étape par étape à ce qui est prévu par la COP.
Pour sa part, Donald Trump a tenu des propos plutôt sibyllins sur une éventuelle évolution de sa position sur l'accord de Paris.
Something could happen with respect to the Paris Accord. We'll see what happens.
Quelque chose pourrait arriver en ce qui concerne l'accord de Paris. Nous verrons ce qui se passera, mais nous continuerons à en discuter. Si ça arrive, ce sera merveilleux, et si ça n'arrive pas, ce sera OK aussi.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a quitté le Qatar hier sans apparemment avoir fait beaucoup de progrès dans sa navette diplomatique pour mettre fin à l'impasse diplomatique entre cet émirat et quatre autres pays arabes qui l'accusent de financer le terrorisme et d'être trop proche de l'Iran. M. Tillerson s'est refusé à répondre aux questions des journalistes avant son départ pour Washington après sa dernière réunion avec l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
Le département d'État américain demande à toutes les nations de fournir des données étendues sur leurs citoyens qui veulent se rendre aux États-Unis, et ce pour aider Washington à déterminer si ces citoyens constituent ou non une menace terroriste. C'est ce qui ressort, selon l'agence Reuters, d'un câble diplomatique envoyé à tous les postes américains, les postes diplomatiques américains.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco.
Le Cameroun devient le 70e pays à adhérer à la convention de l'OCDE sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. L'objectif, combattre la fraude et l'évasion fiscale des multinationales. Le projet de loi autorisant le gouvernement à faire adhérer le Cameroun à la convention avait été avancé au Parlement en 2015. Le ministre Alamine Ousmane Mey avait alors défendu le projet de loi en expliquant que la convention offrirait à l'administration fiscale l'opportunité d'améliorer ses capacités de collecte des informations fiscales et d'induire un meilleur rendement de l'impôt. La Chine a fait don d'un patrouilleur d'une valeur de 2 milliards de francs CFA à la marine ivoirienne. Ce navire dernière génération de 27 mètres de longueur, équipé d'une grue, d'un chariot élévateur et d'autres matériels militaires, servira à lutter contre la piraterie. Selon le général Sékou Touré, chef d'état-major de l'armée ivoirienne, ce patrouilleur accroîtra les capacités de la flotte ivoirienne et lui permettra de sécuriser le golfe de Guinée. La Banque centrale du Zimbabwe envisage d'émettre plus de billets d'obligation. Le pays fait face à une pénurie accrue du dollar américain et au risque d'un retour à l'hyperinflation. En 2009, le Zimbabwe a abandonné sa propre monnaie pour le dollar américain, à l'époque où le pain s'achetait avec des billets de 100 millions de dollars zimbabwéens.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La FIFA a levé la suspension du Soudan.
Tout à fait, et cela 7 jours après avoir annoncé la suspension du Soudan en raison d'ingérence politique. La FIFA a indiqué que la situation est revenue à la normale à la Fédération soudanaise de football. Appuyé par les pouvoirs publics, le bureau sortant avait refusé de partir à l'issue des élections qu'il a pourtant bien perdues, instaurant donc un blocage à la SFA. La suspension a conduit à la disqualification des clubs soudanais d'Ilad Obied et El Merrek, qui étaient en passe de se qualifier pour les quarts de finale en Coupe de la Confédération et en Ligue des Champions.
Les Camerounais doivent-ils s'inquiéter pour l'organisation de la CAN 2019 ?
La réponse, c'est oui, selon les médias locaux qui ont lancé les premières alertes. Et de plus en plus, des rumeurs de délocalisation surgissent. En cause, la lenteur dans les constructions des complexes sportifs de Japoma à Douala, Olembe à Yaoundé et du stade omnisport de Garoua. Ces alertes ont été relayées par une voix imminente du football camerounais, Patrick Mboma, ancien international, qui demande de ne pas briser le rêve.
Les foot ivoiriens et ghanéens endeuillés.
En effet, l'attaquant ivoirien Eugène Kofi Kwame, 29 ans en vacances à Abidjan, s'est écroulé en plein match alors qu'il s'entraînait avec des amis sur un terrain. L'ex-sociétaire des clubs ivoiriens de SOA, du CE Sport de San Pedro et de l'ASEC Mimosa est passé par le Zamalek d'Égypte avant de rejoindre la Turquie en 2015. Ce décès intervient quelques semaines après celui de Cheikh Tioté, victime également d'un arrêt cardiaque le 5 juin dernier en Chine, au cours d'une séance d'entraînement avec son club. Au Ghana, l'entraîneur britannique Steven Pollack, le milieu de terrain Olenou Achité et le conducteur du bus ont été hospitalisés après l'accident du véhicule transportant joueurs et responsables. Un accident qui a coûté la vie à un membre du club hier à environ 150 km d'Accra. L'équipe rentrait à Kumasi après un match contre Inter à Lewes.
L'acteur du FIFA Gate n'est plus.
Oui, l'Américain Shub Blazer, au cœur du scandale de corruption qui a éclaboussé la FIFA en 2015, est décédé hier à l'âge de 72 ans. Il a été secrétaire général de la Confédération du football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes et membre du comité exécutif de la FIFA de 2007 à 2013. Blazer avait été suspendu à vie par la FIFA en juillet 2015 pour avoir accepté des pots de vin. Il a joué un rôle central dans la série de révélations qui a conduit à la démission ainsi qu'à la mise à l'écart de l'ex-patron de la FIFA, Joseph Blatter.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, l'ex-maire de Moundou et ancien candidat à la présidence a été arrêté hier soir à son domicile par la police locale. Son arrestation intervient quelques jours seulement après sa destitution par les conseillers municipaux de la capitale économique tchadienne. André Kodmadjingar fait le point.
Laouken Ikrayou Médar est l'un des rares opposants qui a arraché les rênes de la commune de Moundou en 2012. Il est porté à la tête de cette institution tant convoitée par les courtisans du parti au pouvoir grâce à la coalition de cinq partis politiques de l'opposition dénommée Cheval Blanc. Et c'est après cinq ans de gestion que les conseillers de cette même coalition l'ont destitué au cours d'une session extraordinaire le 28 juin dernier pour faux en écriture publique, concussion, corruption et crise de confiance. Aussitôt destitué, lui, ses adjoints et toute personne impliquée dans la gestion de la commune de Moundou sont sommés par les autorités locales de ne pas sortir en dehors de la ville jusqu'à nouvel ordre. Les choses sont allées trop vite. Laouken Ikrayou Médar a été arrêté ce jeudi à son domicile par des policiers du commissariat de la localité sous le crépitement des gaz lacrymogènes parce que son entourage a opposé résistance. Une arrestation que dénonce son avocat, Maître Mwandinoudi Boniface.
Après cela, moi j'ai appelé le procureur général pour lui expliquer. J'ai dit, mais même si c'est comment on doit lui servir une convocation. Après, on présente une convocation. Après le rouvrable. Et sur la convocation, on écrit des réceptions. Ils sont allés jusqu'à dans sa chambre pour l'arrêter. Manu militari. On l'a conduit comme un malpropre pour l'amener au commissariat. Et lorsque moi je suis arrivé, c'était déjà un bras de fer entre la population et la police et la gendarmerie. On lui reproche d'avoir détourné une certaine somme d'argent. Le contrôle s'est fait à son absence. Même pas de notification, c'est l'arrestation immédiate. Alors, on est dans quel état? C'est politique, c'est pas juridique, ni judiciaire.
Ses compagnons, membres de la coalition Cheval Blanc, ont dans un communiqué de presse crié au complot d'envergure orchestré par le régime pour déstabiliser l'opposition tout entière, car selon eux, c'est le pouvoir qui lui a asphyxié financièrement pour arriver à ce résultat. La réaction du parti au pouvoir ne se fait pas attendre. Kourkao Milézor est le secrétaire régional du mouvement patriotique du salut.
Quel serait l'intérêt donc du MPS de déshabiller Paul pour habiller Pierre, puisque c'est le même parti politique et la même alliance qui continue? Le conseil régional du MPS n'entend plus encaisser de fausses accusations et des injures gratuites et refuse désormais d'être le bouc émissaire des hommes politiques du monde occidental.
Rappelons que Laouken Ikrayou Médar est arrivé troisième à l'élection présidentielle d'avril 2016. Il est considéré comme l'un des leaders politiques charismatiques face au régime au pouvoir. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
Autre maire en détention, celui de Dakar, Khalifa Sall, probablement, pour citer mes collègues, l'absent le plus présent dans la campagne électorale qui se poursuit actuellement au Sénégal. La tête de liste nationale de la coalition d'opposition, Manko Tahaou Sénégal, est incarcéré à la prison de Rebus depuis le 7 mars pour détournement présumé de deniers publics. Une accusation qui porte sur près de 2 milliards de francs CFA. Malgré son absence, ses alliés, collaborateurs, militants et sympathisants battent vigoureusement campagne pour les législatives du 30 juillet. Reportage de Seydina Abagui.
Au quartier général de Khalifa Ababakar Sall, l'état-major s'organise pour un bon déroulement des activités. Ici, l'emprisonnement du leader n'affecte pas tellement le bon déroulement du travail, comme l'indique Moussa Taï, conseiller politique du maire de Dakar.
Nous sommes en train de battre campagne, sans Khalifan physiquement, mais avec lui de cœur et d'esprit. Parce que vous savez, une campagne électorale, ce n'est pas un homme, c'est une équipe. Il y a deux types de programmes. Il y a un programme national que nous avons défini, qui consiste à visiter tous les départements par tous les leaders. Il y a également un programme au niveau départemental. Chaque département s'organise et crée un programme qu'il applique au niveau communal et départemental.
Loin de ces cadres théoriques, la campagne sur le terrain est tout autre. Des centaines de jeunes de la coalition parcourent chaque jour les artères de la capitale sénégalaise pour dénoncer l'emprisonnement de leurs leaders. Bassirou Sam, responsable national des jeunes socialistes, porte leur voix.
Cette mobilisation est la conséquence d'une initiative lancée par des jeunes politiques et apolitiques qui ont tous le même objectif, se battre pour la libération de Khalifa Ababakar Sall, pour sensibiliser les gens, pour les mobiliser afin que notre leader puisse être libéré le plus rapidement possible.
Dans la banlieue dakaroise minée par les inondations, l'ancien ministre Malick Gakou pionne le régime en place. Pour lui, le gouvernement a laissé ses populations dans la détresse.
Cette situation est inacceptable et à la fois inadmissible, mais c'est la meilleure preuve encore une fois que le gouvernement du président Macky Sall ne s'occupe pas du bien-être des populations de la banlieue. Et c'est aussi une manière de dire au président Macky Sall que les populations lui ont tourné le dos et que le 30 juillet prochain, les populations vont démontrer avec force et pertinence qu'elles ont choisi la coalition Banco Taxaw Sénégal en qui elles ont espoir pour résoudre leur problème de bien-être social, mais également résoudre la question lancinante des inondations qui gangrènent leur vie tous les jours.
Les membres de la coalition Banco Taxaw Sénégal rêvent de voir leur leader participer au dernier jour de la campagne. En effet, la Cour suprême doit se prononcer ce 20 juillet sur le pourvoi en cassation du maire de Dakar. En cas de verdict favorable, Khalifa Sall pourra battre campagne durant la dernière semaine. Au cas échéant, il vivra les élections législatives du 30 juillet depuis sa cellule de la prison de Rebos. Seydina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, Goma et le territoire de Nyiragongo, voisin de la capitale du Nord Kivu, font face à une épidémie de choléra depuis le 5 juillet. On déplore déjà 4 morts. La cause principale reste le manque d'eau potable dans la ville et ses environs, alors que la population continue de s'approvisionner directement dans le lac Kivu. De Goma, reportage de Charlie Kassereva.
L'accès aux hangars d'isolement est interdit. Ici, 10 à 15 cas en moyenne sont enregistrés par jour. Tous les nouveaux cas sont mis en isolement, la majorité étant des enfants de moins de 10 ans. Marius est médecin traitant.
On les isole pour ne pas contaminer les autres. Depuis les 7, nous avons commencé à recevoir les cas ici. En moyenne, nous recevons au moins 10 à 15 cas par jour. Mais à cette heure ici, c'est plus les enfants qui sont victimes, qui sont de moins de 10 ans.
À 7 km au nord de Goma, dans le village de Kanyaru, où les premiers cas ont été signalés, Cécile, la trentaine, a perdu son fils de 7 ans. Elle demande aux autorités d'approvisionner leur centre à médicaments, mais aussi elle demande de l'eau potable et d'urgence pour son village.
J'ai 5 enfants et j'ai perdu l'un d'eux avant-hier suite à cette épidémie de choléra. Il l'a attrapé à 14 heures la journée et il en est décédé la nuit vers 21 heures. Nous demandons aux autorités des médicaments et de l'eau potable d'urgence, sinon tous nos enfants vont mourir.
Dans le village de Kanyaruchinya, aucune présence de bornes et fontaines depuis plus de 40 ans aujourd'hui. La saison sèche accentue les problèmes. Deux fois la semaine, un camion de casques bleus de la mission onusienne en RDC amène environ 2000 litres pour les 2500 personnes vivant dans la localité. Bizimana est le chef de village ici à Kanyaruchinya. Il lance un SOS.
Vraiment, problème très sérieux encore. Les dispensaires, il n'y a pas de médicaments. Nous avons besoin d'eau potable et l'ambulance. C'est pour acheminer les malades à l'hôpital.
En début de cette semaine, le gouvernement provincial a déclaré officiellement l'épidémie de choléra dans la ville de Goma et en territoire de Nyiragongo voisin de la ville. Selon Feller Lutaichiro, le vice-gouverneur, la province a déjà enregistré 578 malades confirmés depuis le 5 juillet courant, dont 4 morts selon le vice-gouverneur. Tout a rassuré qu'une riposte efficace est déjà envisagée.
Depuis le 5 juillet 2017, la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo
connaissent une épidémie de choléra. Ainsi, je demande à toute la population d'observer rigoureusement les mesures de précaution. Le gouvernement provincial rassure la population que la riposte à cette épidémie est en cours et cela en collaboration avec tous les partenaires.
Ville habitée par plus d'un million de personnes, Goma est la capitale provinciale du Nord Kivu. Elle connaît les problèmes d'approvisionnement en eau potable depuis plusieurs années. Des efforts ont été fournis par des partenaires tels que les CICR, mais les problèmes restent les mêmes, surtout en cette période des saisons sèches. Charlie Kassareka depuis Goma pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Togo, c'est la période des vacances, période où, souligne-t-on, la gestion des élèves devient difficile car en proie à beaucoup de fléaux. Donc, pour encadrer ces jeunes adolescents, notamment les filles, des activités sont organisées. C'est ainsi que du 10 au 15 juillet se tient un camp des adolescents du cours secondaire, un camp sur la citoyenneté organisé par le Peace Corps, le corps de la paix. Notre correspondante au Togo, Kay Lawson, s'est rendue sur le site du camp à Bagbé, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Lomé.
En milieu de matinée, en ce troisième jour de la phase féminine du camp Unité en faveur des jeunes adolescents, l'heure est à la découverte des États-Unis. Deux bouquins leur sont distribués. Le premier livre a pour titre « Je découvre l'Amérique » et le second porte sur la vie de Martin Luther King. Après une dizaine de minutes de consultation des 10 bouquins, place au quiz.
Quel rôle Martin Luther King a joué dans la société américaine?
Le camp à l'initiative du corps de la paix met un accent particulier sur les valeurs citoyennes. La session sur la citoyenneté a été assurée par l'ambassadeur des États-Unis au Togo, David Gilmour.
La citoyenneté, c'est un élément fondamental pour construire une démocratie et certainement c'est notre but, le but des États-Unis ici au Togo et partout en Afrique d'encourager le développement de la démocratie et la participation civique, la participation des citoyens. Et être un bon citoyen, ça veut dire qu'il faut prendre la responsabilité, il faut être actif dans la société pour trouver les solutions pour améliorer la communauté. Et c'est ce que nous voulons encourager avec ces jeunes filles ici.
Le camp Unité regroupe les meilleurs élèves du cours secondaire âgés de 12 à 17 ans. Durant toute une semaine, ces 60 adolescentes bénéficient d'une série de formations sur diverses thématiques.
Tradition, l'égalité des chances entre filles et garçons, le leadership, l'importance de l'éducation de la jeune fille sont les thèmes que nous avons abordés pour le moment. Nous avons fait des activités sportives aussi.
Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? La grossesse précoce, le manque de confiance en soi, l'inégalité de chance.
La citoyenneté, l'équité genre.
Olive Amélie Vondoli, élève en classe de 3e, a bien suivi la communication sur l'équité genre.
D'autres disaient que le garçon a ses droits et la fille aussi a ses droits. Maintenant, j'ai appris que les deux ont les mêmes droits. La fille peut aller à l'école, le garçon aussi peut aller à l'école. La fille peut devenir une présidente de la République, comme un garçon aussi.
Quant à Emefa Adjoa-Tiala, âgée de 15 ans, ce camp lui a donné une certaine confiance en soi.
Avant, je n'avais pas assez de confiance en moi, mais avec les formations, ça a renforcé ma capacité et j'ai la confiance en moi. Maintenant, je peux discuter avec les autres. Avant, je gardais tout pour moi. Avec cette formation qui a encore renforcé ma capacité, ça va me permettre de travailler avec mes prochains qui vont contribuer au développement de notre pays qui est le Togo.
In fine, le corps de la paix veut faire de ces jeunes Togolais de bons citoyens, comme ils le chantent eux-mêmes.
Nous sommes tous
Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Dans la
la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la drépanocytose.
Environ 5% de la population mondiale est porteur du gène drépanocytaire et donc susceptible de transmettre cette maladie héréditaire qui n'a pas de traitement pour le moment.
Et pour en parler, nous recevrons le professeur Akwete Yvonne Segebna, enseignant à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lomé au Togo. Il nous dira ce qu'il faut faire lorsque l'on est porteur du trait S.
Nous irons en RDC pour écouter Blaise, un malade qui nous racontera ses souffrances et ses craintes. Nous écouterons aussi le docteur Patricia Foto, directrice du programme national de lutte contre la drépanocytose.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.